France Culture.
Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il l'a affirmé, répété même tout au long de la campagne, martelé lors de sa cérémonie d'investiture, Donald Trump aime les droits de douane et compte bien en user pour refaire de l'Amérique un pays riche. Plus qu'une politique économique, les droits de douane sont pour Donald Trump un levier pour faire plier ses rivaux à sa volonté. Il vient de l'illustrer ce week-end en annonçant une hausse des droits de douane de 25% sur les importations venues de Colombie après que le président Gustavo Petro a refusé le rapatriement de ses concitoyens par avion militaire. Depuis, la Colombie a changé d'avis. Mais au-delà de ses coups de force, Trump incarne est-il réellement une rupture en proposant des tarifs douaniers élevés censés protéger l'économie américaine? Comment le président américain s'inscrit-il dans une histoire longue du protectionnisme? Pour en parler, Jean-Baptiste Velu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Pour moi, les plus beaux mots du dictionnaire sont tarifs douaniers. Ce sont mes préférés. Plus les droits de douane sont élevés, plus on a de chances que les entreprises viennent s'installer aux États-Unis pour ne pas avoir à payer de droits de douane. Il y a aussi une autre théorie qui montre que plus les droits de douane sont élevés, plus ils sont affreux, plus ils sont odieux, plus les entreprises viennent s'installer vite. Quand j'annonce des droits de douane de 10%, rien que ces 10%, ça représente des centaines de millions de dollars. Tout cela pour réduire notre déficit.
Un discours de Donald Trump, alors en campagne, c'était le 15 octobre 2024. Jean-Baptiste Velu, c'est touchant d'avoir un président poète, en tout cas porté sur l'amour du dictionnaire. Pour moi, les plus beaux mots, dit-il, du dictionnaire sont tarifs douaniers. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi met-il ce concept économique-là au cœur de son discours et même de sa politique?
Parce que c'est une arme, vous l'avez bien dit, qui est une arme à la fois économique, mais aussi diplomatique, et qui a des résonances à la fois sur le plan intérieur, pour l'électorat de Trump, dont on connaît le penchant nationaliste, mais aussi à l'extérieur, vis-à-vis des autres puissances, pour montrer que les États-Unis vont être plus fermes avec le reste du monde.
Alors, il y a une histoire longue du protectionnisme américain, de ce rapport des présidents aussi aux tarifs douaniers. Mais en la matière, Donald Trump a un bilan, puisqu'il a été président des États-Unis une première fois. Je voudrais qu'on fasse avec vous le bilan de cette politique en matière de tarifs douaniers. Que peut-on dire justement de son premier mandat dans ce domaine? Est-ce que la hausse des prix que les Américains ont connue a été la conséquence de la hausse de ces tarifs?
Alors, ce serait difficile d'attribuer la hausse des prix qui a eu lieu pendant la pandémie et donc qui est le fait des problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels on a assisté qui était dû au blocage de l'économie internationale. Toutefois, il est vrai que les tarifs ont tendance à générer un surcoût et on l'a vu sur un certain nombre de produits, à la fois pour les consommateurs, mais aussi des biens intermédiaires où les tarifs imposés par l'administration Trump ont engendré des coûts supplémentaires pour les entreprises, notamment pour les biens intermédiaires et les entreprises qui travaillaient avec des produits comme l'acier ou l'aluminium.
Quel impact sur le marché du travail cette fois-ci et au-delà, d'une manière plus générale, sur l'emploi?
Alors sur l'emploi, je dirais que les études sont beaucoup plus claires et montrent que les guerres commerciales de Donald Trump ont eu un effet négatif sur l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est que là, les effets de la pandémie, certes, ont occulté cet impact négatif, mais si on regarde les chiffres de près, on se rend compte qu'avant la pandémie, c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, il y avait un recul de l'emploi industriel aux États-Unis qui est estimé à entre des pertes d'emploi entre 175 000 et 300 000, y compris dans des états industriels, états pivots ou états clés comme l'Ohio et le Michigan, que Donald Trump entendait remporter lors des élections.
Sur la guerre commerciale menée par Donald Trump toujours et sur ses effets sur l'économie réelle, est-ce que les Américains ont réussi à se défaire un tantinet des produits justement à l'étranger? Est-ce qu'ils ont réussi à se défaire des produits chinois et est-ce qu'ils ont réussi à relocaliser une partie de la production aux États-Unis?
Alors c'est un indicateur qui est là aussi intéressant pour analyser le bilan de l'administration Trump, c'est celui que porte près de son cœur, je dirais, le président américain, c'est le déficit commercial. Si on regarde le déficit commercial, on se rend compte que les tarifs douaniers imposés par Trump et maintenus par l'administration Biden, donc, finalement, n'ont pas permis de réduire le déficit commercial américain. Et on se rend compte, alors, il faut nuancer ce tableau en précisant que les produits importés de la Chine ont baissé dans une certaine mesure, mais on a assisté à des effets de détournement et donc des nouvelles plateformes de réexportation. Le Mexique a fortement bénéficié de ces effets de détournement, le Vietnam, Taïwan, l'Inde. Et donc une réimplantation d'un certain nombre d'entreprises dans d'autres pays, pas forcément les États-Unis. En revanche, il est vrai que la politique incitative de Joe Biden a attiré des investissements privés dans le secteur industriel et finalement a eu un impact beaucoup plus significatif que les guerres commerciales de Donald Trump.
Entreprenons ensemble, alors, Jean-Baptiste Velu, cette histoire longue du protectionnisme américain. Il faut peut-être revenir sur la fonction première des droits de douane. Avant toute chose, ils sont un revenu pour l'État fédéral américain, puisque l'État fédéral ne levait pas d'impôts, il faut le rappeler, avant 1913. Je parle d'impôts sur le revenu.
Oui, tout à fait. L'historien économique Douglas Irwin divise l'histoire américaine en trois grandes périodes. C'est ce qu'il appelle les trois R, donc revenu, restriction et réciprocité, pour montrer que la première partie de l'histoire américaine le gouvernement américain se sert des tarifs douaniers comme un moyen de lever des fonds. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, aujourd'hui, entend renouveler ce rôle et nous dit, notamment dans l'extrait que vous nous passiez, que les tarifs douaniers vont permettre de lever de nouvelles ressources pour financer tout un tas de programmes de l'administration Trump, alors qu'on sait que, dans les faits, ce budget risque d'être... ressources risquent d'être très limitées et payées en grande partie par le consommateur américain.
Parce que c'est pas du tout le même ordre de grandeur des tarifs douaniers aujourd'hui, un impôt sur le revenu sur le contribuable américain, on l'imagine bien.
Absolument. Par rapport au budget, il est clair que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les individus rapportent beaucoup plus que les tarifs douaniers aujourd'hui. Mais ça s'explique aussi par le niveau très bas des tarifs douaniers historiquement.
Je reviens un instant sur les barrières tarifaires. À quel point sont-elles consubstantielles à l'histoire politique des États-Unis? Il faut rappeler les débats autour du nationalisme économique qui traversaient les débats des pères fondateurs des États-Unis.
Absolument. Les tarifs douaniers, les mesures protectionnistes ont, je dirais, caractérisé une grande partie de l'histoire américaine jusqu'en 1934, que ce soit dès les débats des pères fondateurs, comme vous le disiez, où on avait déjà des débats forts sur la réciprocité commerciale, mais aussi tout au cours du 19e siècle, avec le tarif des abominations en 1828. La fin du 19e siècle avec la présidence McKinley que Donald Trump affectionne particulièrement.
On y reviendra.
Et puis en 1930, le fameux Smoot-Hawley Act qui aurait contribué à aggraver la crise économique américaine et mondiale.
Et puis, il faut aussi rappeler ce détail illustratif. La première loi des États-Unis, c'est tout un symbole. La première législation fédérale majeure au lendemain de l'entrée en vigueur de la Constitution est une loi qui impose des droits de douane.
Alors, c'est une des premières lois, effectivement. Ce n'est peut-être pas la première, mais il faut aussi rappeler que le premier traité international signé par les États-Unis, qui est avec la France, c'est le traité, une entente diplomatique et commerciale avec les États-Unis. Et c'est vrai que cette question commerciale a été centrale dans l'histoire américaine. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la guerre civile qui a aussi opposé le Nord et le Sud sur des questions raciales, certes, mais aussi sur des questions commerciales. Le Sud exportateur étant bien plus favorable à des échanges plus libres que le Nord.
Justement, sur cette question, je voudrais tirer le fil de ce que vous êtes en train de nous expliquer, Jean-Baptiste Velu. À quel point cette question des tarifs douaniers, des accords commerciaux, du libre-échange d'ailleurs, a permis de constituer l'idéologie des deux grands partis américains? Elle est au cœur de cette idéologie et dès le départ?
Oui, c'est vrai qu'elle a joué un rôle, je dirais, encore plus central au XIXe siècle pour la protection des travailleurs américains. Et donc, le tarif était associé à la protection des travailleurs américains, mais dans un contexte économique très différent où l'économie américaine était encore... il y avait toute une série d'industries naissantes et on n'était pas dans une économie mondialisée comme aujourd'hui.
Vous avez mentionné son nom, le président favori de Donald Trump, un président auquel il fait souvent référence, McKinley, qu'il appelle le roi du tarif, King of Tarif.
On était beaucoup plus riches à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Et j'aimerais d'ailleurs citer le nom de McKinley, parce qu'il a été un très bon président. Il venait de l'Ohio, et c'était un excellent homme d'affaires qui a bien réussi. Il croyait en la puissance des droits de douane. Il a rendu le pays très riche. Et quand Teddy Roosevelt est arrivé, je ne veux pas le critiquer, mais il a dépensé l'argent que le pays avait gagné pendant la présidence de McKinley. Et il en a fait de très grandes choses, comme construire le canal de Panama, le projet le plus coûteux que nous ayons mené à bien.
Rappelons ce fait historique, en 1890 s'est instauré le sévère McKinley Tariff Act. Les taxes sont portées à 50% de la valeur des biens importés. Alors, membre de la Chambre des représentants, William McKinley deviendra président des États-Unis en 1897. Pourquoi, selon vous, Jean-Baptiste Velu, Donald Trump fait-il référence constamment à ce président des États-Unis? Et qu'est-ce que cela raconte de son rapport, là encore, aux tarifs douaniers?
Alors, deux choses. Je dirais que la première, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont l'administration Trump, alors Trump lui-même, mais aussi son ancien conseiller au commerce, Robert Lighthizer, s'inspire et s'approprie cette histoire américaine, cette histoire protectionniste américaine, pour montrer que finalement les tabous du protectionnisme, il y a quelques années, ignorent toute cette tradition protectionniste américaine qui aurait fait la puissance économique américaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le côté nostalgique de Donald Trump qui aime se comparer à d'autres présidents. Et je crois que le président McKinley, le choix du président McKinley n'est pas innocent. C'est non seulement un président protectionniste, mais comme votre extrait l'a montré, quelqu'un qui avait des velléités impérialistes. Et donc finalement, ça lui permet de justifier en quelque sorte ces velléités d'expansion territoriale, que ce soit vers le canal du Panama ou le Groenland aujourd'hui.
Je voudrais qu'on fasse un bond dans l'histoire, que l'on s'attache à s'immerger même dans la crise de 1929, car si longtemps on pense que les tarifs douaniers ont fait la richesse du pays, la richesse américaine, les tarifs douaniers ont aussi accéléré en 1930 cette grande crise économique. Expliquez-nous comment.
Alors, les débats là-dessus, l'historiographie diverge, je dirais. Certaines études montrent que finalement la crise financière est vraiment à la base de cette crise économique américaine puis mondiale. D'autres études montrent effectivement que les tarifs ont exacerbé ces problèmes de crise. Ce qui est intéressant, c'est que le Smoot-Hawley Act est devenu une sorte de bête noire de l'histoire économique américaine et, d'un point de vue symbolique, a hanté les débats sur le libre-échange et la diplomatie américaine.
Je rappelle juste d'un mot, pardonnez-moi de vous couper, que cet acte-là alourdit les droits de douane de 20 000 produits importés par les États-Unis à l'époque.
Voilà, et elle reflète le système en place depuis des décennies, sinon des siècles, qui consistait à... qui était un trafic d'influence ou un système de rente par lequel les entreprises soutenaient les membres du Congrès pour obtenir la protection d'un certain produit, et puis par système de réciprocité, je dirais, entre représentants à la Chambre, chacun soutenait l'entreprise et les intérêts économiques de l'autre pour arriver à des tarifs de plus en plus élevés.
Comment réagit le président américain de l'époque, Roosevelt en l'occurrence ? Est-ce qu'il pointe du doigt cette décision-là, les droits de douane en général ? Est-ce que cela marque un nouveau rapport peut-être au libre-échange ?
Tout à fait. C'est le président Roosevelt et son conseiller au commerce Cordell Hull qui vont lancer cette révolution diplomatique, cette révolution économique également, en tentant de déléguer le pouvoir de négociation à l'exécutif. Et donc en extrayant le Congrès de ce rapport de négociation avec les intérêts économiques, l'administration de Roosevelt va dire « nous allons négocier ces accords de réciprocité ». Et donc c'est comme ça que naît le Reciprocal Trade Agreements Act de 1934 qui lance cette révolution libérale. Alors elle sera conditionnelle, elle sera réciproque, on n'est pas encore dans le libre-échange des années 90, mais le tournant est lancé et s'accélérera au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où bien sûr le monde aspirera à d'autres valeurs.
Qu'est-ce que nous enseigne la seconde moitié du XXe siècle ? Pour poser la question autrement, est-ce que les tarifs douaniers sont situés politiquement aux États-Unis ? Est-ce qu'ils appartiennent à un camp plutôt qu'un autre ? On a l'impression qu'à la lecture de cette histoire récente, les cartes sont totalement brouillées. Un républicain comme Ronald Reagan, un chantre du libre-échange à l'extrême, va être aussi parfois un défenseur, un promoteur même de ces tarifs douaniers élevés.
Oui, vous avez bien cerné cette différence entre discours libéraux et puis pratiques américaines. Dans les faits, les États-Unis soutiennent le libre-échange dans la mesure où le commerce mondial bénéficie à leurs intérêts économiques. Mais dans les faits, ils continuent à protéger certains secteurs de leur économie, que ce soit l'agriculture avec des subventions généreuses, que ce soit l'industrie de l'acier ou certaines industries comme l'industrie textile qui bénéficient de certaines protections temporaires. Dans les années 90, d'abord peut-être quelques mots sur la décennie Reagan, où à partir du moment où le Japon, les puissances asiatiques, l'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne de l'Ouest, commencent à concurrencer les intérêts économiques américains, la position de Washington va se durcir avec des négociations beaucoup plus dures et des droits de douane imposés par l'administration Reagan. Qui reste aussi une deuxième référence de l'administration Trump en la matière.
Vous aviez commencé une ébauche d'explication aussi sur les années 90, alors je vous laisse.
Et alors les années 90, je dirais que le consensus libéral commence à s'effriter dans la mesure où la gauche se retourne contre le libre-échange. Alors c'était déjà le cas dans les années 70 avec le mouvement syndical, mais aussi la droite dure du Parti républicain qui a soutenu quand même le libre-échange depuis la Deuxième Guerre mondiale. On voit que la gauche et l'extrême droite ou la droite nationaliste commencent à se tourner contre le libre-échange. Donc il y a déjà, des signes avant-coureurs d'une administration Trump avec des candidats comme le populiste Ross Perot aux élections de 92, Pat Buchanan qui est aussi un paléo-conservateur du milieu des années 90, qui, quand il prendra sa retraite, dira « Bon, ma carrière a échoué, mais mes idées sont passées », en soulignant le rôle de Trump dans sa capacité à galvaniser la base républicaine au nom du protectionnisme.
Et que dire plus largement aujourd'hui du rapport contemporain qu'entretiennent les démocrates avec les droits de douane ? Si on prend la période Obama, si on prend également la période Biden dont vous avez commencé à parler un peu plus tôt dans notre échange, quelle politique entretiennent-ils avec ces droits de douane ? Est-ce qu'ils sont là aussi un instrument de la puissance, un instrument pour faire valoir les intérêts américains ?
Alors ils sont peut-être moins, je pense qu'il n'y a pas cette fétichisation, si je puis dire, du tarif douanier ou de l'arme tarifaire, comme cela peut être le cas pour Trump. En revanche, c'est vrai que depuis les années 90, le Parti démocrate est très divisé sur la question des accords de libre-échange, donc l'ALENA qui a été vraiment une fracture au sein du parti et qui a joué un grand rôle, je pense.
Et là, il faut rappeler avec qui les États-Unis ont noué cet accord de libre-échange.
Avec, l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique et le Canada, signé en 92 et qui est entré en vigueur en 94 et qui avait fait l'objet de débats houleux qui avaient divisé le Parti démocrate. Et puis l'autre débat fratricide, je dirais, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC, qui avait aussi divisé le Parti démocrate et, je pense, fait fuir un certain nombre d'électeurs.
En 1992 aussi, hein, me semble-t-il.
Non, c'est en 80. Alors, les débats ont lieu en 99 et 2000, et la Chine entrera à l'OMC en 2001.
Un mot peut-être aussi sur l'entourage de Donald Trump cette fois-ci. Est-ce que cet entourage soutient entièrement, inconditionnellement sa politique en matière de droits de douane ou cet entourage en matière économique est beaucoup plus hétéroclite qu'on l'imagine?
Alors, hétéroclite, oui, je crois que c'est le mot. Alors, c'est difficile, il y a des signes contradictoires encore aujourd'hui. Lors de du premier mandat de Trump, les globalistes, ce qu'il appelle les globalistes, donc les partisans d'une politique plus libérale ou plus ouverte, s'opposaient aux protectionnistes durs, comme Robert Lighthizer, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui, lui, faisait partie de l'administration Reagan et avait négocié durement avec le Japon. Finalement, les nationalistes ou les protectionnistes l'ont emporté. Et Lighthizer avait réussi à, je dirais, théoriser ou cartographier cette idéologie américaine, même historiciser dans son dernier ouvrage « No Trade is Free », qui est paru en 2019. Pour la nouvelle administration, ce qui est frappant, c'est que Lighthizer, en dépit de l'influence qu'il avait pendant la première administration, c'est lui qui avait négocié l'accord avec la Chine, finalement a été évincé de l'administration. C'est son donc chef de personnel, chief of staff, Jamison Greer, qui l'a remplacé, qui est beaucoup moins expérimenté. Et puis, ce qui est assez surprenant, c'est que Trump a nommé de nouveaux globalistes, si je puis reprendre son terme, au secrétariat au Trésor. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure il va poursuivre une politique protectionniste dure. Je crois que la conclusion, enfin, j'anticipe peut-être nos débats, mais c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension personnelle de l'arme tarifaire qui concentre le pouvoir au sein de la personne même de Trump. Et c'est ça qu'il affectionne avant tout, plus qu'une idéologie et une stratégie mondiale.
Et dans le même temps, cette arme tarifaire, quand on regarde le rapport de force qui a été établi ce week-end, dans les derniers jours, avec la Colombie, pour asseoir sa politique migratoire, on peut dire que ça a fonctionné. La Colombie s'est pliée aux exigences du président américain et sa politique américaine verra le jour comme il l'entend.
Absolument, et c'est la nouveauté, je dirais, de ce rapport à l'arme tarifaire, c'est son instrumentalisation à des fins diplomatiques sur d'autres sujets. Alors auparavant, on avait tendance à segmenter différents domaines diplomatiques, même si les questions commerciales ont toujours servi de carotte ou de bâton pour contraindre certains partenaires commerciaux. Mais là, on le fait au grand jour. D'habitude, cela avait lieu en catimini pour négocier des accords. Aujourd'hui, Trump brandit cette arme tarifaire aussi parce qu'elle met en lumière et met en jeu sa force et sa personnalité.
Je voulais qu'on mette par ailleurs la lumière, Jean-Baptiste Velu, sur le risque de clientélisme induit justement par ces politiques de hausse des tarifs douaniers, politiques clientélisme, parce que parfois cela conduit à des exemptions de ces hausses pour certaines personnes. Je prends un seul exemple, Bernard Arnault, qui était présent à l'investiture de Donald Trump, a plusieurs exemptions, lui, s'agissant de ces hausses de droits de douane.
Oui, tout à fait. C'est le risque de cette concentration du pouvoir entre les mains d'un président qu'on sait narcissique et un but de sa propre personne et surtout obsédé par le pouvoir, c'est ce système de rente où, et on l'a vu lors de l'inauguration de sa présidence, les grands intérêts, les grandes richesses se sont ruées pour montrer à patte blanche à l'administration Trump. Alors ça, c'est la partie visible. La partie invisible, ce sont, en matière commerciale, les groupes d'intérêts qui font appel aux décisions de l'administration Trump pour obtenir une exemption de tel ou tel tarif douanier. Et une étude, il y a quelques années, pendant l'administration Trump 1, avait montré que l'administration Trump se servait de ces tarifs et de ces exemptions pour récompenser les fidèles et punir les opposants.
D'un mot, la hausse, la baisse des tarifs douaniers aux États-Unis, à qui appartient la décision? Est-ce qu'elle est tout entière du ressort du président et de son administration?
Alors, ça dépend si on parle de ces exemptions ou l'imposition des tarifs douaniers. L'imposition des tarifs douaniers, historiquement, a été la double responsabilité du Congrès et de l'exécutif, mais constitutionnellement, revient au Congrès qui a le pouvoir, légitimement, le pouvoir de gérer la politique commerciale. Dans les faits, depuis 1934 et puis après la loi commerciale de 1974, il y a une délégation à l'exécutif qui a donné de plus en plus de pouvoir au président. Et Trump s'appuie aujourd'hui sur des lois des années 70 pour faire ce comme bon lui semble.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Velu d'avoir traversé avec nous cette histoire du protectionnisme américain. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sorbonne Nouvelle. Merci encore.
Merci.